Qu'est-ce qui vous fait marcher dans la vie?
C'est mes pieds, avec des chaussures bien rembourrées. Et surtout, le regard. Je regarde, je vois. Je vois où je mets les pieds et je marche.
Bonjour Brahim Medjoubi, président de l'Association culturelle berbère de Loire-Atlantique, nous présente l'invité du magazine en précisant le contexte de son invitation.
L'Association culturelle berbère accueille M. Rachidoul Bsir pour animer une conférence autour du patrimoine culturel immatériel de Kabylie. C'est toujours dans le cadre du cycle des conférences qu'organise l'association. Donc on a, par le passé, vous avez interrogé Hend Saadi. Donc c'est toujours dans ce cycle-là qu'on essaye de faire venir des gens intéressants qui ont produit pas mal de livres, des scientifiques qui ont bossé sur des domaines assez précis. En l'occurrence, Rachid, qui est à côté de vous, est prolifique en matière de production littéraire. Donc il a à son actif une dizaine de livres. Ça va du conte, du roman, du récit, et puis il participe aussi à une revue littéraire, enfin une revue de poésie à Paris. Et c'est quelqu'un qui sillonne toute la Kabylie pour, faire prendre conscience à la population, la Kabylie entière, du danger qui guette la Kabylie en matière de la disparition de tout ce qui touche à la culture de façon, matérielle et immatérielle. Donc c'est un travail colossal, assez intéressant, et qui nous interpelle, nous, en tant que Kabyles vivant en France. On se posera la question certainement du comment peut-on apporter notre contribution à ce travail-là. Est-ce qu'en allant là-bas, est-ce qu'en créant des chantiers, est-ce qu'en faisant un travail de communication en direction de la communauté. Voilà, c'est tout ce travail-là qui nous intéresse. Et aujourd'hui, du fait que j'ai regardé un petit peu ce qu'il a, sa conférence au Québec, il a sillonné aussi le Canada, il est dans les trois conférences. On aura certainement un échange assez intéressant autour de la culture, de la langue kabyle de façon générale.
Vous êtes présenté comme une personne intéressante. C'est un bon départ.
Ça augure une bonne suite.
Je complète le portrait de brillantes études à la Sorbonne.
C'était dans les années 70, c'est loin.
Mon métier?
Oui, je le fais épisodiquement comme ça. Je donne quelques contributions à des journaux électroniques. Sinon, j'ai fait, durant une vingtaine d'années, des reportages, des enquêtes dans le pays profond à propos de la paysannerie, des coutumes, des traditions, des mutations surtout, des choses qui changent. J'ai fixé tout ça par écrit dans des journaux qui paraissaient en Algérie jusqu'à une certaine date. En 2003, on nous a fermé notre journal qui s'appelait Le Matin. Et depuis, je me suis mis peut-être... c'était assez positif. Paradoxalement, ça m'avait poussé à écrire des bouquins. Donc je me suis mis à produire des romans, des essais, des études, des enquêtes, des recueils de patrimoine, de langue, de tradition, de savoir-faire, de croyances. Et je travaille beaucoup sur l'imaginaire perdu, dont la perte, si vous voulez, engendre une déculturation dramatique. Des gens qui se trouvent entre deux chemins, qui ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus où aller. Et c'est là-dedans que j'interviens, moi, pour rectifier un petit peu, redonner de la fierté d'appartenir à une civilisation perdue, mais qui pourrait, avec les efforts de tout un chacun, reprendre sa place dans l'universalité, en élaguant un petit peu tous les anachronismes et toutes les choses désuètes qui n'ont plus voix au chapitre, quoi.
Votre camp de base, c'est à la campagne. C'est là où on est le plus proche de la culture.
Oui, c'est l'espace. La campagne et la montagne constituent des espaces réels, concrets, où la culture ne s'est pas encore complètement noyée dans la fausse modernité. Ce combat-là, on le mène avec des paysans, concrètement, avec des gens qui détiennent encore des savoirs, porteurs de langage, porteurs d'us, porteurs de tradition, porteurs de savoir-vivre, porteurs de savoir-être, porteurs de partage, porteurs de valeurs universelles que nos ancêtres nous avaient léguées, comme la propreté, la solidarité, l'hospitalité, le partage avec les autres, l'abnégation par rapport au groupe et le sacrifice de l'individu par rapport à la collectivité. Toutes ces valeurs-là, nous les retrouvons encore. Parfois, elles ont des aspects de survivance, mais souvent, nous les rencontrons dans les faits concrets de tous les jours. Elles réémergent comme ça, miraculeusement. Donc, nous avons espoir de les recultiver et de leur redonner des assises concrètes avec tous les outils de la modernité.
On va définir le contour de cette culture, et notamment, parce que c'est le thème central de votre intervention, sur l'aspect immatériel de la culture. Alors, qu'est-ce que vous entendez par aspect immatériel ?
Alors, certaines civilisations sont mesurables par des effets tangibles, des choses qu'on voit, qu'on touche. D'autres, comme la civilisation amazigh, berbère, kabyle, est une civilisation fondée sur le mot, sur le verbe, sur la parole, sur le comportement, sur un mode de partage de la pensée qui a des effets concrets, mais pas immédiatement. C'est beaucoup plus un ensemble de traditions portées par la langue, transmises par la langue. Et dans ces traditions, on peut synthétiser en disant c'est en général la littérature orale qui porte toutes ces traditions-là. Nous avons les récits, les poèmes, nous avons les contes, nous avons les adages, les proverbes, les devinettes, tout ce qui est véhiculé par la langue kabyle, la langue berbère, amazigh. Nous avons en deuxième position tous les arts du spectacle, donc qui concourent à définir cette civilisation-là. Nous avons le chant, la danse, le théâtre, le parathéâtre, les jeux de masques, les processions, les carnavals, tout ça qui sont encore vivaces, qui se perdent effectivement, mais où il y a encore des oasis, où il y a survivance et où il y a volonté de réanimer, de redonner du contenu à toutes ces pratiques-là qui définissent l'identité des peuples et des tribus et des citoyens qui vivent dans ces espaces-là. En troisième position, quelque chose de très important, c'est tout l'aspect cosmogonique, savoir donc tout l'imaginaire par rapport à l'univers. Les berbères ont leur vision du monde, d'où sont sorties les planètes, comment avons-nous une idée des astres, l'être humain il est venu d'où, les animaux sont sortis d'où, toutes ces questions-là. Les berbères leur avaient trouvé des réponses, souvent poétiques, souvent métaphoriques, souvent allégoriques, mais très très jolies et très belles. C'est donc en gros, si vous voulez, entre guillemets, une religion d'avant les religions monothéistes. Ça concourt à l'identité de notre peuple, peuple kabyle, peuple berbère, amazigh. Et on peut inclure là-dedans, par exemple, l'écologie. Je peux m'avancer et dire que nos ancêtres sont parmi les inventeurs de l'écologie. Ils sont arrivés à mettre des gardiens tutélaires à chaque élément de la nature. L'olivier a son gardien invisible, le caroubier, la source, la maison, la rue, tout élément, le vent, le soleil, tout élément de la nature a son gardien tutélaire invisible qui veille sur lui et qui fait que le citoyen ne peut par exemple pas déraciner un olivier. Parce que l'olivier est l'abri de l'âme de ses ancêtres qui se réfugie là quand son ancêtre meurt. Quand son père meurt, son âme se réfugie. Elle va ni au paradis, ni en enfer. Il n'y a ni paradis ni enfer dans cette cosmogonie-là. Par contre, il y a des refuges naturels pour les âmes des gens qu'on aime. Quand quelqu'un aime une cigogne, quand il meurt, son âme se réfugie chez la cigogne. Voilà, ça, c'est cette vision cosmogonique-là, elle est tellement jolie, tellement belle, et porteuse de tant d'effets sur la nature, d'effets positifs, qu'il est nécessaire de la restituer, d'en parler surtout, d'en parler parce qu'on l'a perdu. Beaucoup ne savent même pas que ça existe. Nous avons une quatrième dimension qu'on pourrait évoquer dans les contenus identitaires. Ce sont les savoir-faire de l'artisanat traditionnel. Alors c'est en gros l'économie ancienne. Elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle est en liaison avec la langue. Je peux vous donner quelques exemples. Chaque fois qu'un métier meurt, il emporte avec lui tout un lexique. Et ce lexique, en disparaissant, appauvrit évidemment la langue. On peut prendre l'exemple du métier à tisser, connu chez les Kabyles. J'ai recensé avec mon groupe, j'ai un petit groupe de recherche, 188 mots utilisés dans le métier à tisser, dans le tissage de façon générale, depuis la tonte des brebis jusqu'à la production de la couverture ou bien de la cape ou du burnous, on utilise près de 200 mots. Avec l'appauvrissement du métier à tisser, la mort quasi certaine de cette pratique-là, le vocabulaire disparaît avec. Comme nous n'avons aucune institution qui peut ou qui a dans sa feuille de route la récupération du lexique pour le moderniser, le réinjecter dans l'usage quotidien, donc la langue berbère s'appauvrit avec la disparition des pratiques économiques et des pratiques traditionnelles. Et ça, c'est mortel pour toute langue, hein, pas uniquement pour l'amazir. Et en dernier, nous avons tout ce qui est rituel, social, tout ce qui est pratique rituelle, festive, qui sont portés par les calendriers anciens, les calendriers agraires. Alors le peuple kabyle, le peuple berbère, est sans doute l'un des rares dans le monde à user de 4 calendriers. Nous utilisons le calendrier grégorien universel. Nous avons des vestiges du calendrier julien, Inayel, le 12 janvier. Nous avons le calendrier lunaire musulman qui fixe les fêtes religieuses tournantes. Et nous avons le calendrier agraire kabyle du Jurjura, qui a aussi un calendrier du Sahara, un calendrier de l'Est et de l'Ouest. Mais au niveau de la Kabylie, il y a un calendrier qui remonte à des millénaires et qui a été réactualisé vers 1500 avec la venue des Andalous, le reflux après la Reconquista en Espagne. Donc les Andalous, les Berbères qui étaient en Espagne ont été chassés. Ils ont reflué sur l'Afrique du Nord. Ils ont un petit peu modernisé ce calendrier en ramenant des savoir-faire agronomiques, des savoir-faire géorgiques liés à la nature et à la météorologie. Et nous avons encore quelques vestiges en Kabylie, des gens qui pratiquent et qui peuvent prévoir, par exemple, la météo. C'est un calendrier très très riche qui est composé de 45 durées, d'un jour, 3 jours, 7 jours, 3 fois 7 jours, 4 fois 7 jours, qui a des noms à consonance très, très, très jolie, très poétique.
Je suppose qu'il y a un travail de collectage, il y a encore beaucoup de témoins ou c'est de plus en plus sur des textes?
Alors c'est multiforme, donc le travail consiste, comme vous dites, dans la collecte de témoignages, donc de faire parler le maximum de vieilles personnes ou même de personnes moins vieilles, moins âgées, qui portent en elles des savoirs, qui portent en elles des visions, qui portent en elles des souvenirs, des souvenances comme ça intéressantes. Et on les fixe évidemment avec tous les outils actuels, on n'a pas de mal, on peut enregistrer, on peut filmer, on peut écrire, on a tous les moyens pour faire ça. Et de façon très rapide. De l'autre côté, il y a toute une documentation qui a été perdue ou bien, disons, reléguée, considérée comme étant inutile. Donc on est en train de l'exhumer. Je pense notamment au fichier berbère qui a été fait par les Pères Blancs en Kabylie. Je pense à certains travaux d'ethnologues comme Léo Frobenius, un Allemand qui a travaillé sur la Kabylie en 1914. Malheureusement, son travail s'est fait en langue allemande, il n'a été traduit que vers 1998. Vous imaginez, de 1920 à 1998, on ne savait pas ce qu'il avait fait. Et c'est lui qui a remis à l'ordre du jour un petit peu tout l'aspect cosmogonique et tout l'imaginaire berbère par rapport à la nature, par rapport à l'univers. Et il y a d'autres ethnologues, d'autres chercheurs, donc en ce moment, nous sommes en train de travailler de façon collégiale, en faisant des recoupements de toutes les informations possibles et imaginables qu'on peut trouver chez les personnes. Ou bien nous faisons souvent aussi parler la toponymie, donc on fait parler l'espace, on interroge les dénominations, les noms. Et on s'inquiète, oui, on s'interroge aussi sur la provenance de certaines déformations, certaines mutilations de la désignation des espaces, des noms, des arbres, etc. Donc, c'est un peu c'est ce qu'on appelle la déculturation, qui était un peu le moteur de toutes les colonisations. Je rappelle que le peuple amazigh a connu une dizaine de colonisations, depuis les Phéniciens aux Vandales, les Romains, les Arabes, les Byzantins, les Turcs et les Français. Et actuellement, on est encore un petit peu sous le coup de massue de toutes ces colonisations-là.
Rachid Oulpsir,
auteur de nombreux ouvrages sur la culture kabyle, est l'invité du magazine.
On est encore un petit peu sous le coup de massue de toutes ces colonisations-là. On n'arrive pas à s'en sortir. On fait quasiment du complexe du colonisé. On reproduit quasiment la culture du colonisateur en croyant que c'est de la modernité.
Mais c'est aussi un acte de résistance que de travailler sur cette mémoire.
Absolument. Le travail sur la mémoire, c'est toute une résilience. C'est la résistance, comme vous dites, à la dénaturation, à la déculturation, surtout à l'extinction culturelle. Nous sommes guettés à un concept bien kabyle qui définit cette extinction de façon très très pointue. Ça s'appelle Nger. Nger, ça regroupe en même temps l'extinction biologique et l'extinction culturelle. On parle de quelqu'un qui n'a plus d'enfants, Inger en kabyle, ça veut dire il n'a plus de descendance. Nous, on applique ce concept-là à la culture. Et quand on est menacé d'extinction culturelle, c'est de ce phénomène-là qu'il s'agit. C'est la disparition imminente. L'effet le plus spectaculaire, c'est au niveau linguistique. Quand nous constatons dans une famille que la mère et le père ne transmettent plus la langue maternelle, la langue des parents, des ancêtres, et qu'ils lui substituent d'autres langues, souvent très mal assimilées, c'est ce phénomène d'extinction qui est mis en branle, qui est mis en mouvement.
C'est une partie du chemin, ça c'est conserver l'acquis, mais une culture doit être vivante, être en phase avec la société. Donc il y a aussi un travail sur le dictionnaire, par exemple. Il y a un mot pour dire ordinateur.
Oui, là, un ordinateur.
Computer,
ordinateur, en attendant de créer nos propres mots, notre propre vocabulaire, on ne se complexe pas d'utiliser les mots des autres. Les langues, elles ne font que ça. On emprunte, on crée des néologismes, on les adapte à la situation. Mais pour l'instant, la sauvegarde de ce qui se perd de façon très accélérée est peut-être prioritaire. Si vous voulez, une division du travail un petit peu implicite comme ça, nous, les chercheurs de terrain, nous sommes en phase avec certaines institutions en Algérie qui s'occupent de créer des néologismes, d'un vocabulaire nouveau, etc. Mais nous, on n'accepte pas que ce vocabulaire soit orphelin par rapport à la structure ancienne de la langue. Je donne souvent l'exemple de la jarre d'huile d'olive qui fuit, à laquelle on substitue de l'huile végétale. Et si on n'arrête pas la fuite de l'huile d'olive, au bout d'un certain temps, dans la jarre, il n'y aura que de l'huile végétale.
النار يا ربي الكمال غرك نام وقال أي جلي ذا خلاق ياش كل شيء غورك يسهل.
Quand on privilégie le contenant, parfois le contenu est complètement édulcoré et perverti. Alors il faut un dosage, il faut savoir doser. Bon, ce qui est vraiment archaïque et qui n'a plus emprise sur le concret, on le laisse tomber. Mais s'il y a des mots, s'il y a un vocabulaire approprié pour désigner des choses modernes, on ne voit pas pourquoi user d'emprunt ou de néologisme, puisque nous avons notre substance de base. Et c'est dans cet équilibre-là, ce dosage, que tout le génie des chercheurs et de la société, parce que la rue aussi produit son vocabulaire génial parfois. Il ne faut pas sortir d'une grosse académie pour trouver des mots. Baladez-vous dans la rue, vous tendez l'oreille et vous alimentez votre dictionnaire.
Ibrahim.
Je suis né kabyle, je resterai kabyle et je mourrai kabyle. Donc il n'y a pas de problème, je parle couramment la langue, j'écris la langue. Et puis ça a été notre souci. Hein. Moi j'ai toujours été très clair au niveau de l'association. J'étais très très mal à l'aise de défendre une langue avec une autre langue. Quand on parle tout le temps français, même s'il y a un français parmi les 100 kabyles, on parle français histoire d'expliquer à la personne alors qu'on n'utilise pas la langue. Et la langue va disparaître si on ne l'utilise pas. Donc c'est ça ma conclusion. Donc aujourd'hui, au niveau de l'association, on a un cours adulte qui est assuré par justement quelqu'un qui est arrivé comme étudiant, qui a un master en berbère. Et très 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 intéressant. Donc moi-même je suis dans ce cours-là, on suit le cours. On a un cours pour enfants qui date d'il y a au moins 3 ans. Donc on est vraiment sur le fond. On défend la langue, on essaye de la véhiculer, de la parler, de la transmettre et de faire pas mal d'activités dans ce sens-là. Et la venue de Rachid Oulpsir, on l'a fait venir du fin fond de la Kabylie. Hein. Ça corrobore un petit peu notre démarche qui n'est pas superficielle, qui consiste quand même à transmettre la langue.
C'était l'interrogation de Brahim en tout début d'interview. Comment une association nantaise peut contribuer et accompagner vos travaux?
Il y a d'abord la contribution la plus ordinaire, c'est la contribution matérielle. Aider concrètement, matériellement, les chercheurs à réaliser leurs travaux. Je passe parce que c'est connu. Il y a d'autres...
Oui, mais c'est bien de le dire. Un petit peu de sous, c'est pas mal. Hein.
Oui. Même les poètes, ils passent à table, hein, ils mangent. À côté de cela, il y a des formes nouvelles à mettre en branle. Et évidemment, toujours avec des moyens matériels. Je pense par exemple au tourisme culturel. Le tourisme culturel permettrait de ramener les gens comme ceux qui vivent à Nantes, les Kabyles de Nantes, de venir en Kabylie, de participer à la sauvegarde d'anciens métiers, d'anciennes architectures, par exemple réhabiliter une maison kabyle, une vieille maison kabyle, repenser l'architecture avec les matériaux modernes, réhabiliter certains sites et en même temps relancer par exemple le tissage, ramener des femmes qui détiennent encore le savoir-faire, faire école avec des jeunes filles et transmettre le savoir-faire. Donc aider à ce tourisme-là, qui est en même temps agréable et utile pour notre langue, nos pratiques et notre mode de vie. Reconstruire des villages entiers, ça se passe en ce moment en Kabylie, et je pense au village de Zoufga, au village de Tinbdar, au village de Djibla. Il y a certains villageois qui ont pris en charge la réhabilitation de l'habitat, donc un travail sur l'espace, un travail en même temps sur la mémoire et sur la transmission. Le fin mot, c'est la transmission. Il faut identifier, préserver et transmettre. Parce qu'on peut identifier et parler de sauvegarde, sans transmission, c'est la mort certaine. Donc nous, on agit au niveau de la transmission, l'identification, si vous voulez, il y a beaucoup d'institutions qui mettent le doigt dessus au niveau national, au niveau régional, je pense au Maroc par exemple, certains chercheurs qui mettent le doigt sur des phénomènes de déperdition, de disparition, donc on est en phase avec eux, mais le gros de l'effort serait dans la transmission. Et quand on arrive à identifier, cerner un vecteur du patrimoine et le transmettre, ça, on aura fait un pas en avant.
Et avec les États nationaux, ça se passe bien ?
Pas souvent. Parce que quand un État base son action culturelle sur la substitution d'une vision du monde à une autre vision qui est celle de ses enfants, ça se passe souvent assez mal. Je pense chez nous, pour dire les choses avec les mots qu'il faut, nous avons un substrat culturel partagé par toute la population de l'Afrique du Nord, c'est le Tamazirt, sa vision, son mode de vie, ses façons d'être du citoyen. Et on constate que les États nationaux, que ce soit chez nous ou chez nos voisins, s'évertuent à substituer à ce mode de vie le mode de vie oriental ou par complexe de coloniser le mode de vie occidental. Bon, que ça se fasse parallèlement avec certains dosages maîtrisés, c'est peut-être un peu l'apanage de la mondialisation qui n'est pas toujours à ne pas confondre avec l'universalité, ce qui est autre chose. Mais chez nous, c'est beaucoup plus dans la vision d'éradiquer totalement l'ancienne vision, l'ancienne culture qui est celle de nos ancêtres et pour laquelle nous nous battons tous les jours. Et voilà, les États nationaux ne nous sont pas d'une grande aide. Thank you.
الوقفة غدار ويني غيصر وين الهم ما نصبر نظرة ننطر ما نحمق نظرة نظلم ولا غينفع ما نهضر ورينفع ما نسوسم كل يوم فلغ بحضر أمشك النار نخدم
Que je vous parle d'un conte qui est un peu notre carburant, un machahou. C'est un machahou, tu vois, tu le vois, on te va, mousserou, et c'est une joie d'un ch'tegouchgou. Il y a fille ou une fille qui est en train de faire la houne gouvrid, ou fanny ou une froch, il y a rosy ferris, et n'a pas de fille de jmal, n'a pas de fille de jmal. Il y a une triouen, il y a une safrouche à guillon. إلا قتاوير أتزلو غتشع داكسو إناس يغنى ها تاني عرز يفريس إناس كي غتاوير غتذاويغ الذاويغ يفريس السرح هذي فرفر إن تقدوي الثلاثة إناس يمتي السرح ذاك نادي فرفر أندا راير إناس هذي ريوت الغابة ريوت تزقي هذي عايش دينا إناس لو معنا تزقيني تخسر إناس يغلي فلاس الدخان المازوت ليسانس كلشي إناس تفوح تزقينا ضياوضة ذي مسدينا إن تقدو يس ربعة إناس هي وأنا ويطافرو خاكي أسن ذاوي يفراو نيس أسن سحلو ذا شوق بلاس نسرح نروح نذاوي تزقي تما شاوتي وملعتي دوارا والجواد يساجي دونك دو 4 بيرسون كي مارش سون ألون مارشي باغ إكزومبل إي فوا سور لاكوتمون un oiseau blessé. Alors le premier propose, tiens, l'oiseau est bien dodu, je vais le prendre et le mettre dans ma marmite. Le second lui dit non, on va le prendre, on va le soigner et le relâcher dans la nature. Il va voler de ses propres ailes. Un troisième leur dit, mais où est la nature? La forêt est toute polluée, est toute pervertie, est toute sale. Si on relâche l'oiseau, il va mourir. Alors un quatrième leur dit, soignons l'oiseau. Soignons la forêt et lâchons l'oiseau dans la forêt.
Merci à
Rachid Oubsir,
auteur de nombreux ouvrages sur la culture kabyle, et merci à Brahim Medjoubi, président de l'Association culturelle berbère de Loire-Atlantique, pour leur libre participation à ce magazine.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant comme ça ?
C'est assez efficace finalement. Voilà. On n'a pas besoin d'un grand bureau, un studio, quelques bières et autres. Donc on a juste en marche. Voilà. Et puis c'est dynamique, c'est du mouvement.
Un peu de chauffage, j'ai entendu.
Ah oui,
c'est ça qui manque.
Ah ouais.